J'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers.
La radio des aînés.
À Florois, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens très bien, ça n'a pas d'importance, aujourd'hui tout va bien.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce mois-ci pour vous parler d'une époque où la télévision n'existait pas encore. Une époque où les jeunes n'étaient pas encore partis à la ville. Une époque où les anciens gardaient leur place devant la cheminée. C'était avant la guerre. Et nous étions bien jeunes alors. Mais nous gardons de ces années des souvenirs qui réchauffent. Ceux de ces belles soirées passées en famille ou entre amis. À rire, à discuter, à jouer et à chanter.
Et maintenant, nous allons écouter un poème de Guy Ethan, La veillée d'autrefois. Vous souvenez-vous des veillées d'autrefois où chacun aimait à se retrouver ensemble autour d'un grand feu de bois pour des instants magiques partagés. Les hommes discutaient en jouant aux cartes sur un coin de la table. Les enfants dessinaient. La grand-mère s'appliquait à découper la tarte au rythme de la pendule. Les femmes tricotaient. La pipe au coin des lèvres, assis dans son fauteuil, le grand-père malicieux les observait de l'œil, tandis que d'un geste machinal, il caressait le gros chien de la maison étendu à ses pieds. On se racontait les histoires du village, la Marie qui avait trompé son Léon. Elle avait pourtant l'air si sage, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Après une journée de travail accompli, on savourait ces soirées de détente, toute la famille ensemble, les parents, les enfants, les oncles et les tantes. Un vent de sérénité soufflait dans le foyer. On se parlait, on échangeait, on s'écoutait. En ce temps-là, n'existait pas la télévision pour falsifier et polluer les relations.
Mais on se réunissait autour du feu et on discutait quoi avec les voisins. On se mettait autour du feu pour éplucher les châtaignes pour le cochon. Le berger du village venait et racontait des histoires. On jouait à la belote et les dames discutaient. Et voilà.
Les veillées avaient lieu à partir du mois de décembre. En période d'hiver, comme dit Claude, on épluchait les châtaignes, on allait chez les voisins. Moi, j'allais chez un voisin qui avait un poste de TSF, et j'allais aussi pour écouter le poste et savoir les nouvelles. Il disait, on écoute le communiqué. Il ne disait pas le journal télévisé, il disait le communiqué. Et on passait une bonne soirée à parler de l'un ou de l'autre, des projets, ce qu'on avait fait dans la journée. C'était des soirées intéressantes. Après avoir épluché les châtaignes, on buvait un petit peu de vin chaud peut-être, avec de l'écorce d'orange. Et la soirée se terminait à 11h, 11h30. On ne veillait pas jusqu'à très tard. C'était comme ça au début de ma jeunesse. Mais plus tard, après, quand on était plus adulte, on allait déveiller avec les jeunes. C'était pas pareil. Déveiller au Mardi Gras, par exemple. Qu'on faisait le tour du village pour ramasser la saucisse ou des œufs. On criait coucou, coucou. Un œuf, c'était un coucou. Et les gens vous donnaient 3 œufs ou 2, ou suivant leurs moyens, quoi. Et d'autres de la saucisse, et puis après, on mangeait ça, quoi. Et après, quand on avait récolté tous ces aliments, on les faisait cuire et on faisait un petit répétil, un petit réveillon. Et ça se passait au fond du village, je me rappelle, au Tundelioc, par exemple. du côté de chez moi.
Alors, je suis un peu embêtée. Ben oui, parce que j'étais à Nîmes. Hein. Alors, c'était pas tout à fait pareil, évidemment. Enfin, j'en ai eu fait quand même à Lozère chez mes grands-parents, pendant la guerre. Et là, je me rappelle très bien. Moi, c'est surtout les châtaignes, je me rappelle. Hein. Quand les châtaignes étaient cuites, hein, on les mettait dans un paillasson, avec une sache dessus, et on s'y assied dessus. Oui, c'était pour les couver. Pour les couver. Et puis, on mangeait châtaignes, on buvait. Non, moi, je n'aurais pas du vin chaud. On buvait du vin naturel. Puis chacun, oui, il y en a qui chantait, ou alors t'as veillé passer comme ça. Et je, non, pas trop. Non, ça discutait plutôt. Ça discutait. Si, on s'asseyait sur la personne, hein, et alors on demandait, vous savez, et qui je suis, des trucs comme ça plutôt. Des devinettes. On s'en finissait bien jusqu'à minuit quand même. Alors, c'était toujours pareil. On faisait ça, mais ça riait beaucoup. Ils étaient tous très gais. Plus que maintenant. C'est vrai. Chacun disait des blagues, des choses comme ça. C'est agréable. Hein. En ville, c'est pas pareil, par contre. Hein. On faisait bien si on s'invitait. Moi, je me rappelle, mes parents, ils invitaient, mais c'était pas la même chose. On faisait pas des grillés, d'abord. Si, ils faisaient un bon petit repas. Comme dit Georges, on répétait. Et puis voilà.
Les veillées. Bon. On voyait, d'abord, c'était l'hiver, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Mais nous, les femmes, parce que moi, j'étais déjà grande, je crois qu'elle avait peut-être 12, 13 ans, en tout cas, on tricotait, on faisait des tricots, j'avais appris à tricoter. Oh, ça n'avait pas été facile. Je faisais très maladroite. Mais enfin, finalement, je m'y suis mise quand même. Et puis, il y avait quelque chose qui nous marquait. On avait un voisin en face, qu'on connaissait bien, et il venait toujours chez nous. Et on avait aussi, chez nous, des jeunes gens. Comme on était deux filles assez grandes, hein. Alors, puis ces garçons, on les connaissait bien. Ils venaient chez nous. Alors, lui, ce voisin, en face, il venait. Il avait sa femme et ses enfants dans la maison en face. Mais il venait chez nous. Et puis alors, il y avait ces trois ou quatre garçons qui étaient là avec nous pour bavarder. Et puis il disait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, elle disait, eh « Mais vous, qu'est-ce que vous faites là ?» Il lui a répondu. Et puis, et voilà, on est passé nos soirées comme ça. Les femmes tricotaient. Les hommes, mon père faisait des paniers. Il faisait très bien des paniers, mon père. Il en faisait, il savait bien faire. Et puis, il chantait beaucoup, mon père aussi. Mon père et ma mère chantaient des chansons de leur jeunesse. Ah, je sais que... Attendez, ma mère chantait une chanson qui était une chanson triste. Parce qu'en fait, c'était l'histoire d'une femme. Voilà le titre, c'était « tu n'auras pas mon petit gosse ». Et parce que c'était une fille mère qui avait eu un enfant, et puis apparemment, le père voulait reprendre cet enfant, et la chanson était celle-là. Et ma mère la chantait, en général, c'était sa chanson. Et, « Non, tu n'auras pas mon petit gosse ».
Employé dans un ministère, je crois bien que tu gagnais 4 000 francs par an. T'avais pas l'air d'un millionnaire. Tu m'as dit je t'aime, que tu sois à moi. Pour vivre tous les deux, il ne faut pas grand chose. Et dans mon petit nid, tu seras comme chez toi. Nous y ferons tout de même de beaux rêves roses. Un roman d'amour, ça commence toujours par de belles promesses. Un soir de printemps, quand on a 20 ans, on veut une maîtresse. Le cœur est grisé, on est emballé, on la trouve jolie. Et dans un baiser, on jure de l'aimer toute la vie. Nous vivions ensemble depuis bientôt 2 ans. Et il y avait 6 mois que j'étais mère, quand tu m'as quittée un jour brusquement, en me disant « Débrouille-toi ma chère, t'avais de l'ambition, tu voulais te marier, ça te gênait beaucoup d'avoir un collage, tu m'as sacrifié sans hésiter, pour faire une lâcheté, l'homme a du courage, je t'ai dit tristement, si tu me quittes ma maintenant mon gosse n'a plus de père. Tu m'as répondu, cette chose la vois-tu, ce n'est pas mon affaire. Mon cœur s'est brisé, puis-je t'ai méprisé en te voyant si rose. Je suis partie chez toi, emmenant avec moi mon pauvre gosse. 10 ans sont passés, tu m'écris maintenant, tu me dis qu'à dire mort de conscience, tu viens me proposer de m'enlever mon enfant pour assurer son existence. Tu me prends donc comme toi un être sans cœur. Ce que tu me demandes là, mais c'est ta folie. Te donner mon gosse, mais c'est mon bonheur, c'est mon seul espoir, c'est toute ma vie. Pour lui j'ai pleuré, pour lui j'ai passé des nuits de souffrance. J'ai donné mon sang pour avoir seulement un peu d'espérance. Mais aussi maintenant, pour garder cet enfant, je deviendrai féroce. Non, tant que je vivrai, tu n'auras jamais mon petit gosse.
Je vivais avec mon père et ma sœur, vous savez, alors les sorties qu'on pouvait faire, c'était aller faire un tour dans la rue, des trucs comme ça, à cette époque-là, hein, c'est pas comme maintenant. Voilà, bon, tout simplement. À les soirées comme ça, alors j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tricoté, énormément tricoté. Je faisais beaucoup de couture. J'ai appris la couture d'abord. Bien sûr, il fallait passer son temps. Bricoler, ouais. Sinon, sortir, pas beaucoup. Une fois, j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans et demi. On s'est connus au bal. Puis à 18 ans et demi, ben, on s'est mariés. J'avais 19 ans quand on s'est mariés.
On n'avait jamais déveillé. Non, on n'aimait pas ça. On tricotait ou... Non, pas grand-chose. Dans le temps, il n'y avait pas de l'argent, mais il fallait aller les gagner. La vie est compliquée, vous savez. Il n'y avait que les gros riches qui faisaient des fêtes, pas nous.
Je n'ai pas connu le veiller, parce que mes parents étaient particulièrement calotins, et comme dans le fond c'était la ruine, je n'ai connu que la misère. Alors donc des veillées, je ne connaissais pas. Passé un an ou deux, des soirées, mais en famille, et strictement en famille, il n'y avait personne, on n'invitait personne parce qu'on n'avait pas les moyens. Par conséquent, c'était la grande misère. C'est tout ce que je connaissais, ces petits grillons là dont je me souviens, mais ce n'était pas folichon. On n'avait pas à manger, mon père jouait du cor de chasse, et chanter certaines chansons de Boutrel que j'ai oubliées. Mais c'était particulièrement triste pour la bonne raison, c'est qu'on n'avait pas de moyens. Ce qui m'a marqué, c'est que dans le fond, c'était quand le chanteur, l'auteur, Boutrel, là, quand il raconte que vous dormirez en paix aux riches tant que les gueux auront des niches où planter leurs couteaux.
Pardon, monsieur le métayer, si de nuit je dérange, mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange. Mon bon ami, la grange est pleine du blé de la moisson. Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans la mer. Je suis bien nu, sale et boueux, et tout couvert de neige. Mon pauvre ami, quitte-moi vite, t'es hard dans l'embout. Mouille-moi ce tricot de suite, chausse-moi ses sabots. Bon monsieur, on ne veut rien jeter le long des routes. Je voudrais, avec votre chien, partager de trois trônes. Si depuis ce matin tu rôdes, tu dois être affamé. Voici du pain, des crêpes chaudes, voici du lard fumé. Chassez du coin de votre feu, le rôdeur qui n'en bouge. Êtes-vous blanc? Êtes-vous bleu? Moi, je suis plutôt rouge. Qu'importe ces mots, république, commune ou royauté, ne mêlons pas la politique avec la charité. Puis le métayer s'endormit, la minuit est en proche. Alors le vagabond sortit son couteau de sa poche, l'ouvrit, le fit luire à la flamme, puis se dressant soudain, il planta sa terrible lame dans la miche de pain. On bat un jour le gueux sans feu, sans vouloir rien entendre, oubliant son couteau pointu au milieu du pain tendre. Vous dormirez en paix, ô riches, vous et vos capitaux, lorsque les gueux auront des miches, vous plantez leurs couteaux.
Vous racontez les veillées de, dans le milieu où on vivait à ce moment-là. On vivait dans une campagne qui était, très, qui était éloignée. Alors on faisait les veillées en famille. Et les veillées n'ont commencé pour moi que quand j'ai quitté l'école. Parce que tant qu'on allait à l'école, on n'avait pas droit aux veillées. Le soir, il fallait aller se coucher parce que le lendemain matin, il y avait l'école. Il y avait quand même une heure de chemin à faire tous les jours, le matin. Alors après, quand j'ai quitté l'école, mon père m'a appris un peu à faire des paniers. Je faisais des paniers le soir à la veillée. Et surtout des corbeilles à linge. Je me demandais des corbeilles à linge. À ce moment-là, le plastique n'existait pas. On faisait des corbeilles à linge. Et je faisais aussi des petits paniers, tout petits comme ça. Mais ça, c'était à lever comme des petits pains. Je les donnais, ça, c'était pas... Mais ça, les veillées ne duraient que jusqu'au 15 ou au 20 janvier, pas plus. Parce que, étant dans les fermes, nous avions des troupeaux de brebis. Et maintenant, les bergeries sont éclairées, les boutons voient comme un plein jour. Mais à ce moment-là, ils n'y voyaient pas. Alors le soir, il fallait, pendant la veillée, il fallait passer un moment, quand c'était le moment de l'agnelage, aller voir si tout se passait bien, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Alors ça coupait une partie de la soirée, ça. Et puis, jusqu'à l'âge de 25 ans, je fais ça. Puis après, ça a été fini parce que je suis parti à la ville. Et comme j'étais chauffeur, je passais des nuits dehors. Alors, les veillées ne m'intéressaient plus. Après, vous savez, je pensais plutôt à me reposer qu'à les veiller. Et puis, j'ai repris de nouveau un peu de faire des paniers quand j'ai pris la retraite. Mais à ce moment-là, ce n'était pas les mêmes paniers qu'on me demandait. On me demandait surtout des paniers pour faire un pain. Comme il y a beaucoup d'endroits où ils ont restauré le four à pain, dans les campagnes, on m'a demandé de faire des corbeilles à pain pour mettre la pâte, vous voyez. Alors c'est ce que j'ai fait le plus quand j'ai commencé la retraite. Et puis un beau jour, j'ai tout abandonné parce que j'en avais marre. Et puis j'en ai fait tellement que je ne sais pas où il y en a dans toute la France qui sont partis de ces paniers. Et, oh, je ne gagnais pas grand argent, c'était plutôt du plaisir de travailler. Et puis voilà, et puis des fois nous avions, quand nous étions à la ferme, nous avions des rencontres entre voisins de ferme, mais il fallait marcher un bon moment dans la nuit pour y aller. Alors on n'y allait pas souvent, on faisait un jour de veillée dans l'année, à peu près dans l'hiver. Alors ce jour-là, c'était celui-là, on passait pratiquement toute la nuit là. On jouait aux cartes, on racontait des histoires. Chacun racontait ses bonheurs et ses malheurs, comme on avait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait un morceau de saucisse après, quand c'était fini. Et, on racontait surtout le travail qu'on,
qu'on exerçait, parce que nous n'étions pas modernes. Vous savez, les machines agricoles ont beaucoup fait de... Dans les fermes, à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait toujours deux ou trois domestiques, il y avait un berger, il y avait du monde, vous comprenez ? Il y avait de quoi discuter. Mais maintenant, dans les fermes, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont deux, trois, c'est tout ce qu'ils sont. Ils ne sont pas nombreux. Et voilà l'éveillé, comment ça se passe. Peut-être la télévision, comme on dit, après, a tout arrêté.
Oui, aussi, au moment de la récolte des noix, quand elles étaient un peu sèches, on passait la veillée à 4 ou 5, avec les voisins, à casser les noix avec un marteau, et on mettait les cerneaux dans un plat. Une fois qu'on avait les cerneaux, quelques jours après, on les portait au moulin du village pour les écraser. Et ils les écrasaient dans un... Il appelait ça un taïs, mais enfin c'était une pierre taillée. Il les écrasait, faisait une pâte, et puis il y avait quelqu'un qui faisait chauffer cette pâte, qu'il enveloppait dans un tissu, et passait ça à une presse pour sortir l'huile, c'était de l'huile de noix. C'était pendant la guerre, on n'avait pas beaucoup de matière grasse, à part le cochon, et l'huile de noix servait pour faire les salades de pissenlit au printemps, ou... C'était une époque, pendant la crise, pendant la guerre, quoi. Je m'en rappelle vaguement. Les paniers, c'était plutôt mon père qui faisait les paniers. Moi, il m'avait bien un peu appris, mais enfin, j'en ai pas fait beaucoup. Il faisait des corbeilles, comme a dit M. Brudy, pour le linge. Mais c'était déjà un petit peu plus fin comme travail, quoi. Il y avait des gros paniers que c'était pour ramasser les pommes de terre, mais là, c'était plus grossier. Avec des osiers qui étaient plantés au bord de l'eau, au bord du canal, et qu'on taillait ça à l'automne. Il fallait savoir refendre l'osier pour le travailler, et on le faisait cuire aussi dans les marmites pour les peler, et c'était plus joli. Il y avait aussi on pelait aussi les châtaigniers, on appelait ça de la bredoule, pour faire les côtes, pour faire l'armature l'armature du panier. Mais les paniers, on ne les vendait pas. C'était pour la consommation personnelle à la maison, quoi.
Moi, à Cocuré, là, il y avait un facteur receveur qui était à la retraite. Mais lui, il savait faire les paniers, les corbeilles. Et puis, il savait, comme il dit, là, les branches comme ça. Tu sais, il avait un truc, une bûche avec trois. Il les fendait en trois morceaux, comme ça. Après, avec son couteau, il les raclait bien. Et puis les châtaigniers là aussi, il fallait que ça soit bien, pardon, il fallait le faire bouler, tu vois, pour bien le couler et tout, hein. Oui, lui savait le faire, ça. C'était un bon bannier, voilà.
Autrefois, on disait sur le Corse qu'il y avait beaucoup de noyers, et ils ont été beaucoup coupés pendant la guerre 14 pour en faire des crosses de fusil. Et alors ça se vendait pour faire des courses de fusil pour les soldats. Et le noyer a beaucoup été dévasté sur le Corse parce que c'était un noyer qui était très, très bon sur le Corse pour ça. Il faisait des courses de fusil pour aller tuer les gens. Malheureux de le dire, c'est comme ça.
Allô ?
Allô, allô, James, quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours, au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour?
Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle? Ma jument grise, morte aujourd'hui? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle! Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle! Notre château est donc détruit? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
On vient d'écouter, madame la marquise, une chanson de Nora Ventura, une chanson qui nous a fait rire et que tout le monde connaît.
Maintenant, dans l'éveillé, on peut écouter une légende. Ici, par exemple, la légende de la salle Prunet. Salle Prunet, à 2 km de Florac. Les habitants de la vallée de la Mimente, depuis Florac jusqu'à Jalcrest, on peut les mettre en deux parts. Ceux du haut et ceux du bas. Ceux du haut qui accrochent leur hameau aux pentes de la vallée, c'est-à-dire la Valette, la Borie, les Fouzes, Aubusson, la Grandville, les Vernèdes, Pierrefort et les Chazes. Ceux du bas qui ont bâti sagement leur maison sur les bords de la Mimente, la Salle, Sistre et les Casalets. Ceux du haut qui se moquent de ceux du bas, disant que leur air est plus pur, leur eau plus saine. Ceux du bas qui se rient de ceux du haut parce qu'ils ne mangeraient que des prunes. Un jour, il y a de cela fort longtemps, par le chemin qui vient de Florac, en suivant la rivière, arriva un homme que personne ne connaissait. Toute la barbe par devant, de larges fesses par derrière. Un grand habit de laine brune dans lequel il était comme dans un sac, et une corde autour du ventre. Il s'est assis sous un arbre au bord de la Mimente et il a commencé à parler. « Loin de chez nous, disait-il, en Palestine, un homme est venu. Mais cet homme était Dieu aussi. Il est venu, il a parlé, on l'a cloué sur une croix. Il était mort, mais il a ressuscité. Et par sa mort, il nous sauve de nos péchés. » L'homme expliquait ainsi une nouvelle religion. D'abord, ceux qui habitaient au fond de la vallée l'ont écouté de loin. Puis, ils se sont rapprochés. Ils l'ont laissé parler sans trop croire à son discours. Mais l'homme a continué, et comme il ne dérangeait personne, on l'a laissé dire. Peu à peu, les paroles sont entrées dans les esprits et elles y sont restées. Pour vivre parmi ceux du bas et enseigner la nouvelle religion à leurs enfants, avec des branches et quelques pierres, l'homme a construit une petite maison toute simple. Quatre murs et un toit pour dormir et prier. En ce temps-là, on disait une selle, comme on dit aujourd'hui une cellule. Un simple oratoire qui, au fil des ans, est devenu une chapelle, puis une église, l'église de la paroisse. C'est cette selle, des premiers temps, devenue la salle, qui a donné le nom de notre village. Ceux du haut n'entendaient pas les paroles de l'homme et ils continuaient à boire l'eau de leur source, les Fouzes, à manger leurs prunes, à fabriquer de la pègue, de la poix, dans la montagne de l'Empezou ou l'Empegou, à pratiquer la religion de leur père autour de leur druide, cueillette du gui à la nouvelle année procession vers les tombes de leurs ancêtres du côté de Chaumette et de Fraisse, à habiter leur village, pruné à cause des prunes. Alors, entre ceux du bas de la nouvelle religion et ceux du haut de l'ancienne, il y eut la guerre. Se battre pour celui que certains appellent Dieu et les autres Bélénos, vraiment les hommes sont fous. Mais ce fut ainsi. Dans cette petite guerre de religion, Prunet fut détruit. Si vous montez sur la pente, vous en trouverez encore quelques ruines cachées dans les broussailles. Les années passant, ceux du haut et ceux du bas, ceux de Prunet et ceux de la Salle, ayant retrouvé leur sagesse, ils ont fait qu'une seule commune, la Salle Prunet. Chaque année, pour se souvenir de cette alliance, ils font une fête. Ceux du haut apportent leurs prunes, ceux du bas leurs farines, et les femmes en font de fameuses tartes que les hommes cuisent au four du village. Et pour conclure, je dirais à la Salle Prunet, si vous voulez faire un bon repas, allez chez Annie à l'auberge Sévenol. C'était un texte écrit par Roger Lagrave, qui est encore vivant à la Salle Prunet. Merci.
Aujourd'hui, la télé a pris beaucoup de place, mais elle ne peut pas remplacer les veillées d'autrefois. Alors, nous resterions souhaités que les télés tombent en panne, quelquefois comme chantait Pierre Perret.
C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Ah, je m'en souviendrai longtemps, ce fut un sacré bon moment. On allait dîner tranquillement sans dévorer le petit écran, sans se barder la chemise de nouilles en regardant causer ses andouilles. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On allait louper à coup sûr les attentats ou les coups durs, tout ce qui dégringole à la ronde sur la calebasse du pauvre monde, et tout le cortège des abusés, des mêmes qui sont toujours baisés. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Du coup, mes parents, pris de court, voulaient appeler police secours. Ils se sont rués sur le palier, et le moral salement cisaillé. Prenant leur courage à deux mains, ils ont parlé à leurs voisins. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Dans les étages de haut en bas, c'était partout le même tabac. C'était la panique dans la strasse, ils trouvaient ça tous dégueulasse qu'un gouvernement libéral puisse tolérer un tel scandale. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On les a tous amenés chez nous, moi j'ai décroché mon bignou. Papa prit son accordéon, le voisin du dessous son violon. On a fait un bœuf du tonnerre, un truc qui vous fout le cul par terre. Pour finir la nuit, messieurs, dames, Cupidon se mêlant au programme. Incroyablement pour maman, son époux redevint son amant. Et quand mon vieux lui a dit je t'aime, ce fut comme un second baptême. Elle avait les calots brillants, un coup de grisou dans le palpitant. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Pourtant, grâce à ce jour funeste, on a monté un chouette orchestre. Nous vendîmes nos télés aux puces, on vit maintenant de nos chorus. Et ça nous fait bien rigoler, demain on passe à la télé.
Nous espérons que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site internet de Radio Bartas ou bien écrivez-nous directement à la maison de retraite de Florac à l'attention du Club Radio. Nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle émission sur le thème de l'école et au revoir.
J'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers.
La radio des aînés.
3, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens très bien. Ça n'a pas d'importance, aujourd'hui tout va bien.